1, 2, 3.
Hello.
Hello.
Sis.
Tell me your name, I'll tell you mine.
I don't think
so. What's that noise?
Popcorn.
You making popcorn?
Oh, I'm getting ready to watch a video.
En compagnie des décadrés. C'était les décadrés.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des décadrés sur Radio PFM 99.9. Alors bonjour Ange, comment vas-tu ?
Bonjour, mais très bien et toi ? Un peu malade mais ça devrait le faire pour ce soir.
Bah écoute, ça va très bien. Benjamin, tu es avec nous ?
Oui, toujours là. Concentré.
J'ai une petite absence d'un coup là.
Concentré. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez deviné à ce jingle, ce sera une émission spéciale horreur. Mais pour l'heure, il est l'heure de commencer les news avec notre cher Benjamin. Alors Benjamin, tu as des petites infos croustillantes à nous faire parvenir, je suppose.
Bah, comme d'habitude. Donc, c'est parti pour les news. Alors, on a appris que Batman v Superman, l'aube de la justice, était en train de se faire descendre un peu partout. Donc, je vous avoue que c'est un peu la panique et que ma joie faiblit. Bon, bref, on passe à la suite. On a appris que Dark Vador serait certainement dans le prochain Star Wars Anthology, dont la sortie est prévue en décembre 2016. Donc, je sais pas si vous le saviez.
Non, nous ne le savions pas.
Et donc, en fait, c'est parce qu'il y a deux costumiers qui ont été appelés pour reconstruire l'armure de Dark Vador. Donc, à mon avis, c'est pas juste pour faire joujou. Et il y a Hayden Christensen, l'acteur qui jouait Anakin Skywalker, qui a été rappelé pour s'entraîner. On avait dit que c'était pour l'épisode 8. On verra, ça se trouve, ce sera pour ce fameux Star Wars Anthology.
Bah, très bien, c'est quand même une bonne nouvelle, ça.
Bah oui.
C'est une bonne nouvelle, oui. Alors, la prochaine info, on va parler de Shane Black. Est-ce que vous savez qui c'est, Shane Black ?
Shane Black.
Il a un prénom cool.
Il a un prénom cool. Donc c'est le scénariste des Armes Fatales qui a joué dans le premier Predator, qui est aussi le scénariste réalisateur de Kiss Kiss Bang Bang avec Robert Downey Jr. Exact. Scénariste réalisateur de Iron Man 3 et qui va arriver avec The Nice Guys, une comédie policière avec Russell Crowe et Ryan Gosling qui s'annonce assez folle et drôle. Et ça se passe dans les années 70. Donc une fille a disparu, il est drac. Autre nouvelle avec le monsieur Shane Black. Est-ce que vous savez ce qu'il a publié dernièrement ?
Une photo de lui.
Une photo de nuit de lui ?
Si c'est une photo de lui, il y a de quoi s'inquiéter. Parce qu'il a publié une affiche de le nouveau The Predator.
Oui. Ah, donc
qui va arriver au cinéma et donc qu'il réalise et produit.
Donc ce n'est plus une rumeur.
Ce n'est plus une rumeur, c'est la suite des aventures et apparemment il est en pourparlers avec Arnold Schwarzenegger.
Ah, justement, j'ai posé la question.
D'après ce qu'on peut voir sur internet aussi, il est en train de bouffer carrément la production de Marvel. Enfin,
complètement.
Il passe au-dessus de Marvel.
Donc voilà pour les news du jour.
Eh bien, merci Benjamin pour ces petites news croustillantes, n'est-il pas ? Tout de suite, nous allons enchaîner avec notre cher ami Ange qui va nous parler de comédies horrifiques.
Alors oui, je n'ai qu'une seule question à vous poser avant de commencer ma petite chronique. Peut-on rire devant un film d'horreur ? Bien sûr que oui, me direz-vous, parce que le rire peut survenir à n'importe quel moment. En effet, tout le monde ne réagit pas de la même manière face à certaines images. Et même si l'horreur n'est pas vraiment là pour ça, un film d'horreur peut susciter le rire. Ne demandez pas plus d'explications, je ne pourrais vous en donner, puisqu'il s'agit d'une réaction du cerveau qui me semble assez bizarre. Je vais donc vous poser ma question différemment. Un film d'horreur peut-il être fait pour rire ? Et à nouveau, la réponse est bien sûr que oui. C'est ce que l'on peut appeler une comédie horrifique et il en existe énormément de nos jours. Ainsi ai-je décidé de vous en choisir quelques-uns sur un thème commun, les zombies. Alors, vous avez sûrement reconnu grâce à ce magnifique grognement de zombies et à ce rythme endiablé le film Shaun of the Dead, qui est le premier film dont j'ai décidé de vous parler, film britannique que je comparerai aussi au film Zombieland, enfin Bienvenue à Zombieland, un Américain, et Goal of the Dead, un Français. Bon, au niveau des origines des films, on peut jamais vraiment être sûr, vu qu'ils ont tous un nom anglais, mais sur ce coup-là, vous pouvez me croire, ne vous inquiétez pas. Nous nous retrouvons donc face à trois humours différents et qui ne s'étalent pas sur la même période. En effet, Shaun of the Dead est le plus vieux des trois, sorti en 2004, suivi par Bienvenue à Zombieland en 2009, et enfin Goal of the Dead en 2014. Shaun, je vais l'appeler par son prénom parce que sinon ça va me fatiguer à force, est-il le précurseur de la comédie horrifique ? Eh bien non, les origines de celle-ci remontent jusqu'en 1973, mais je vous avouerai que je ne suis pas tout à fait sûr de mes sources, mais c'est le film Les Contes aux limites de la folie qui m'a été donné. Un film composé de 4 sketchs réalisés par Freddy Francis, qui est l'un des plus grands fournisseurs de films de série B. Enfin bref, nous ne sommes pas là pour parler de lui, mais de nos trois films, Shaun, Bienvenue et Goal. Pour commencer, il me faut vous placer le speech de chacun assez rapidement. Shaun. À presque 30 ans, Shaun ne fait pas grand-chose de sa vie. Entre l'appart qu'il partage avec ses potes et le temps qu'il passe avec eux au pub, Liz, sa petite amie, n'a pas beaucoup de place. Elle, qui voudrait que Shaun s'engage, ne supporte plus de le voir traîner. Excédée par ses vaines promesses et son incapacité à se consacrer un peu à leur couple, Liz décide de rompre. Shaun a décidé à tout réparer, et tant pis si les zombies déferlent sur Londres, tant pis si la ville devient un véritable enfer, retranché dans son pub préféré, le temps est venu pour lui de montrer enfin de quoi il est capable. Bienvenue à Zombieland. Dans un monde infesté de zombies, deux hommes tentent de survivre. Columbus, le plus jeune, est terrorisé à l'idée d'être dévoré, c'est une poule mouillée. Mais sa prudence pourrait bien lui sauver la vie. Tallahassee, lui, est un chasseur de zombies qui ne craint plus rien ni personne. Armé d'un fusil d'assaut, il se donne corps et âme à la seule mission qui compte pour lui, trouver les derniers exemplaires de ses biscuits préférés, des Twinkies, encore disponibles sur Terre. Dans leur périple, les deux survivants sont rejoints par Wichita et Little Rock, deux jeunes filles. Tous ont désormais deux défis impossibles à relever, affronter les zombies et apprendre à s'entendre. Goal of the Dead, le grand club de football de l'Olympique de Paris va disputer un match contre le modeste club de Cap-Long, mais ce qui devait être une simple formalité vire à la catastrophe. Une infection semblable à la rage se propage à Cap-Long. Les habitants du petit village se transforment en créatures ultra-violentes et très contagieuses. Samuel Lorry, ancienne gloire originaire de Cap-Long et proche de la retraite, Idriss, jeune prodige, arrogant, Coubert, entraîneur dépressif ou encore Solène, journaliste ambitieuse, vont devoir tout tenter pour survivre. Ta-ta-ta. C'est bon. Vous avez réussi à me suivre, bien, le pitch est très simple pour chacun d'eux. Il y a des zombies et il faut survivre. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans ? Parce que dans tous les films de zombies, les personnages ont envie de survivre. Enfin, normalement. Shaun veut montrer de quoi il est capable, Ed veut boire des bières, Columbus ne veut pas se faire bouffer, Tallahassee veut ses Twinkies, et Samuel, bah, il veut survivre. Mais et alors ? Nous nous retrouvons face à trois humours bien différents. Dans Shaun of the Dead, nous nous retrouvons face à l'humour typique anglais dans lequel les protagonistes veulent faire quelque chose, mais ils ne font pas de la bonne manière. Enfin, je revois au loin la scène de Sacré Graal des Monty Python du fameux lapin de Troie afin d'attaquer les Français, mais sans monter dans le lapin, c'est assez difficile. Eh bien, c'est à peu près le même principe chez Shaun. On sait qu'il faut exploser la tête des zombies pour les tuer, alors que fait-on ? On leur envoie des vinyles à la tronche. Mais pas n'importe lesquels, hein, que les mauvais. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a dans ce film une sorte de moquerie de la société actuelle, de la société dite zombie, et auquel on ne fait plus attention. Ainsi, pendant la scène d'intro, on rentre dans la routine du personnage, qui se répète pour annoncer l'arrivée des zombies. Mais tout se passe exactement comme avant. Ainsi, le clodo qui baragouine au début est identique au clodo zombie. Idem pour le vendeur de la supérette et même le couple qui s'embrasse à l'entrée du bar. Tout est exactement pareil. Ainsi, quand le spectateur voit ce qui se passe, parce que ça se voit clairement que ce sont des zombies, et qu'il remarque que Shaun ne voit rien, là on a juste envie de lui dire « Mais putain, ouvre les yeux, tu vas te faire bouffer !» Mais non, il les prend juste pour des gens totalement bourrés et il n'y prête pas attention. Et c'est ça qui est drôle. D'ailleurs, tant que Shaun ne sait pas qu'il y a des zombies, il ne craint rien. C'est comme quand on se blesse, tant qu'on ne voit pas la blessure, on a pas mal. Et ben là, bim, dès qu'il apprend aux infos qu'il y a un virus, paf, un zombie dans son salon. Et c'est la panique. Et ça marche, enfin sur moi en tout cas. Et tout le film se déroule assez similairement par la suite. C'est un humour assez subtil qu'il faut réussir à choper au vol. Ainsi, il faut remarquer que le deuxième groupe que Shaun croise, c'est exactement le même que le sien, avec en guest Martin Freeman, notre fameux Bilbo ou Watson, ou même Arthur dans H2G2. Enfin, à vous de choisir. Mais ils ne restent pas ensemble, ils se croisent comme s'ils s'étaient croisés dans la rue, l'un cherchant le pub, et l'autre essayant de trouver l'armée. Et bien sûr, l'histoire du film ne suit pas la recherche la plus logique. Dans Bienvenue à Zombieland, nous nous retrouvons dans un humour typiquement américain, mais sans partir dans la parodie style Scary Movie, c'est-à-dire un humour bourrin, sanglot, c'est-à-dire dans un film de zombies ou même une série, que ce soit Walking Dead, Land of the Dead. 28 jours plus tard, on se retrouvera certes peut-être face à des armes de bourrin, exemple grosse mitrailleuse, tronçonneuse, sabre, en gros des trucs qui font bien saigner, et qui, bien filmés, ont la classe. Alors gardez en tête le gros de ces règles, Sauf que vous prenez des armes auxquelles vous n'aurez jamais pensé à la base. Bon, la batte de baseball est un classique que nous croisons aussi dans Shaun of the Dead, mais le matériel de jardinage, c'est un peu moins commun, et plus précisément un sécateur. Pour les moins connaisseurs, c'est juste une grosse paire de ciseaux. Et là, c'est balèze. Pendant cette fameuse scène du sécateur, on voit Tallahassee qui ouvre son coffre, plein d'armes en ton genre, ce qui surprend même Columbus. Il y prend une pioche, et le spectateur se dit « Waouh, il va faire un carnage avec ça !» Mais non, il la repose et se fout le sécateur dans le pantalon. Je ne rigole pas, on a l'impression qu'il vient de charger un flingue, c'est tout. Il joue les durs à cuire depuis le début, mais bon, là, c'est quand même un peu gros. Et ben non, il y arrive, le petit salaud. Et ensuite, il y a la grande classe à la française. Que fait-on, nous, pour nous battre contre des zombies ? On se donne du courage en gueulant, ce qui attire les autres zombies. On danse devant un zombie pour détourner son attention et ensuite se mettre à gueuler en courant. On utilise une porte de voiture, on tire sur nos potes, pas encore zombies. Ou enfin, on les défonce à coups de ballon de foot dans la tronche. Et oui, le français ne fait rien comme il faut, si l'on en croit les règles de survie en cas d'apocalypse zombie, mais c'est ce qui fait tout l'humour du film. On fait connerie sur connerie, le public se demande quand le perso va crever, mais ça n'arrive jamais. Bah, sinon l'histoire serait vite bouclée. Donc voilà, dans ces trois cas, l'humour se fait surtout par la violence exagérée que l'on y trouve. De 1, les zombies sont magnifiquement bien, on y croit vraiment. Les effets spéciaux sont eux aussi très bien rendus et on nous donne à voir du sang. On ne va pas juste comme d'autres films sérieux, voir une tête qui explose et basta. Non, là, on nous donne du spectacle. Les plans sont millimétrés pour que toute l'action soit visible au ralenti. On voit de quelle manière le zombie se fait exploser la tronche et c'est une magnifique danse qui s'opère, comme s'il y avait un concours du meilleur défonçage de tronche. Et c'est un humour auquel j'accroche beaucoup, mais il n'est pas dit que ça ait le même effet sur vous, donc à vous de voir. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'univers de ces réalisateurs, Shaun of the Dead fait partie de la trilogie Cornetto avec Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Tous trois différents, mais tellement bons. Enfin voilà, seul le réalisateur Benjamin Rocher avait déjà fait l'expérience du zombie avant Call of the Dead, et cette fois en étant sérieux, puisqu'il est le réalisateur de La Horde, un film en huis clos dans l'immeuble d'une cité. Film qui est tout à fait magnifique à mon goût, et qui est porté par un bon jeu d'acteur, pour dire, imaginez juste un instant le papy de la série En Famille, Yves Pignot, en train de balancer des grenades et se défoulant sur des zombies avec une Kalachnikov. Rien que ça, c'est juste énorme. Enfin voilà, je vous quitte pour cette chronique sur la musique de... Land of the Dead, que vous avez entendu pendant tout le long, c'était le thème principal de Land of the Dead de Romero, qui est un très bon film de série B. Romero qui a inspiré en partie les trois films dont je viens de vous parler.
Donc c'était Ange avec la comédie horrifique.
Exactement. Alors,
tout à fait.
J'aurais juste une correction à faire
sur les zombies.
La Horde, il me semble que c'est pas Benjamin Rocher.
Ils sont deux, j'ai oublié le deuxième.
Oui, qui est un critique de cinéma extrêmement criant.
Oui,
extrêmement
criant.
Donc.
Eh bien, merci Ange pour cette petite analyse sur ces trois chouettes films. Maintenant, on va enchaîner avec notre ami Benjamin qui va nous parler de Wes Craven.
Oui, donc je veux vous parler exactement de Wes Craven New Nightmare, ou Freddy sort de la nuit. Donc le septième volet de la saga. Alors en 1994, Freddy Krueger, le croque-mitaine le plus célèbre du cinéma, créé par le maître Wes Craven, fêtait ses 10 ans d'existence. À l'occasion de cet anniversaire, New Line Cinema, donc la société de production, de distribution, donc qui a fait son succès grâce à la saga, propose au cinéaste de revenir réaliser un dernier film Freddy. Mais après 6 films au compteur, Freddy n'aurait-il pas usé son gant griffu ? Donc demander un dernier film Freddy est assez ironique, puisque le 6e film s'appelle quand même La fin de Freddy, l'ultime cauchemar. Donc en anglais, Freddy is dead, the final nightmare. Et puis, si Wes Craven a créé, écrit et réalisé un personnage et une œuvre brillante et originale, il faut savoir qu'en l'absence du patron, ses suites ont atteint le pire comme le meilleur, donc le meilleur notamment lors de son retour sur certains volets, notamment le 3. Alors Wes Craven s'est ainsi posé une question importante. Comment faire de cette commande un nouveau bon et original volé sur le Freddy ? Bonne nouvelle ! Il a l'entière liberté du studio, qui s'est largement rempli les poches sur ses idées, notamment en multipliant des suites pour le pur plaisir de l'odeur du dollar, du franc, de la livre de sterling, bref, de l'argent, ou, puisque ça nous rend un peu cynique, du fric. Craven s'interroge, et le déclare dans un petit doc disponible sur le Blu-ray du film. « Je pense que les histoires sont devenues de plus en plus difficiles à écrire. Le problème, lorsqu'on fait des suites, et je crois que les suites en souffrent toujours, c'est que si on garde le méchant comme centre de l'histoire, ce qui est le cas dans cette série, alors il faut simplement renouveler les victimes à chaque fois, et ça devient répétitif. Il n'y a pas de continuité narrative en dehors du méchant. » On peut continuer de construire autour de la jeunesse de Freddy, mais plus ça va et moins on a de matière. À la fin, les histoires se révèlent de moins en moins liées de près ou de loin à l'idée originale. Quand on m'a demandé de réaliser un dernier Freddy, je voulais être sûr de pouvoir amener le film à un autre niveau. J'ai revu toute la série, et au bout d'un moment, j'ai perdu le fil. Oui, on perd aussi. Et il n'y avait rien sur quoi construire une suite. Héroïquement, c'est ce qui m'a poussé à sortir totalement du film. Finalement, j'ai appelé Bob Shay, donc qui est le producteur de la saga, et je lui ai dit « Je veux faire un film sur le phénomène du film et utiliser cette base pour sortir des histoires. Ça permettra d'aborder la question de la censure et du bien et du mal causé par les films d'horreur. Si on interdit ces histoires, on permet d'une certaine façon qu'une chose ineffable voyage de sans entrave à travers la conscience. C'était l'essence du film. En arrêtant les histoires, on permettait à Freddy l'accès à la réalité. » Ouhou. Et dans un dialogue interne au film, donc il explique littéralement le principe. Donc attention, c'est entre l'héroïne et Wes Craven directement. Et dans ce cauchemar, cette chose, Freddy, le croque-mitaine, le mal, a-t-elle une faiblesse? Eh bien, elle peut parfois être capturée. Capturée? Comment? Par les conteurs, paraît-il. Avec une bonne histoire, ils parviennent à en capturer l'essence et à l'emprisonner dans le récit. Comme le génie dans la bouteille? Exactement, exactement. Mais les problèmes arrivent quand l'histoire meurt. Ça arrive, ou quand quelqu'un l'adoucit pour la rendre plus commerciale. Ou quand la société la rejette parce qu'elle dérange. Ça arrive. Quand l'histoire meurt, elle libère le mal. Ainsi, Freddy revient ici, parmi les vivants, hanter directement le monde réel. Et alors, le cinéaste Wes Craven et les comédiens Robert Englund, interprète de Freddy, et Heather Langenkamp, qui est toujours l'héroïne du récit, après l'avoir incarné dans le premier volet et dans d'autres volets. Vous vous dites que le trip péta est complètement dingue. Vous vous le dites.
Non. On se le dit.
On se le dit. Eh bien non, au contraire, le cinéaste revient à la base de l'idée, à son essence, pour la transcender. On vous en parle en 5 petites madeleines. Donc, première madeleine, c'est un personnage, Freddy Krueger, au passé de pédophile ambigu. Pédophile même. Victime brûlée vive. Donc une victime brûlée vive par les parents des enfants agressés. Esprit malade et vengeur, agressant sur les enfants. Enfin, agressant les enfants plutôt. Donc les enfants des fameux parents, dans leur sommeil et dans leur rêve, agissant comme une projection de la culpabilité des parents sur leur progéniture. Donc ici, ce qui est encore plus poussé, c'est qu'ici, Freddy veut éliminer même, littéralement bouffer le petit Dylan pour se venger d'Heather, donc l'actrice Heather Langenkamp, qui a incarné Nancy, la première héroïne à avoir vaincu, ou presque, Freddy, dans le premier volet. C'est donc aussi une histoire d'enfant. Deuxième, c'est de l'épouvante horreur avec des scènes de mort folle, fantaisiste, originale, et aussi beaucoup d'humour noir et de second degré. Bon, ça, vous en rappelez. Troisième, bien avant Inception, Craven nous exposait un combat en strates de réalité et de rêve. Et ici, avant ses screams, il avait atteint son sommet. Puisqu'il joue entre la réalité, la fiction, les rêves, le cauchemar et même la réalité propre du film. Il faut savoir que dans le métrage, le réalisateur dit écrire le prochain volet de la saga au fur et à mesure de ses cauchemars. Donc, problème. Les autres subissent ce qu'ils voient dans ses cauchemars et donc ce qu'il écrit dans ce fameux scénario. Scénario qu'il réalise pour nous-mêmes à l'écran, puisqu'on voit le film. En clair, le film qui se déroule devant vos yeux avant selon les cauchemars du réalisateur. D'où le titre du film, Wes Craven, New Nightmare, en français. Le nouveau cauchemar de Wes Craven. Allez comprendre le titre français officiel. 4. Des films parlant du cinéma, de même traitant à l'intérieur du récit de leur propre mythe et des autres figures du cinéma. Le croque-mitaine, les figures du bon, du mal, de la peur individuelle et collective au cinéma. Bon, bah ici on dira très vite qu'il est à la fois méta et non méta. Du coup, comme dans les films qu'il réalisera plus tard, je pense à Scream 4, vous avez de véritables leçons de cinéma et de narratologie qui vous sont adressées plus ou moins directement. Bref, on aurait pu appeler cette madeleine la présence du maître Craven. Cinquième madeleine, enfin, celle qui est connectée à la première, avec la présence de Robert. Freddy, tu veux dire mon petit Bobby, ou Benjamin, ou bref, on s'en fout, t'as les tripes à l'air et le cœur qui baigne. Ton prénom n'est plus un problème. Vous me pensiez mort. N'oubliez pas ce qu'a dit Craven. Vous croyez m'avoir exorcisé à nouveau avec le trigmec de merde ou avec toutes les nouvelles bouses que vous appelez films d'horreur. Vous n'avez fait que me réveiller. Craven est mort. Son âme est à moi. Quant à Rémi et H, ils m'appartiendront bientôt à mes potes du Necromonicon. Bref. Et vous, mes petits enfants, je viendrai vous chercher. Il me faudra une héroïne à trancher. Mais enfin, au lieu de te la jouer divergente et autres teenage movies à la con, prépare les anti-sommeils, serre les cuisses et chante avec Freddy ceci. j'essaie de comprendre. T'as peur, hein, ouais, t'as peur. À bientôt.
Eh bien, merci, Benjamin. Ça va?
Je me sens mieux.
Il a été possédé.
J'ai eu une grosse absence.
Ah bah oui, on voit ça, ouais. Bon, ça a l'air d'aller, t'as repris tes esprits, ça va.
Oui, j'ai eu des griffes un moment.
Ouais.
Donc, ça va être à toi, mon cher Antoine.
Oui, exact, ça va être à moi. Et en fait, j'ai décidé aujourd'hui, comme nous sommes dans le thème de l'horreur, de vous parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur. L'Exorciste. Alors, L'Exorciste, grand classique du cinéma d'horreur, sorti en 1973, réalisé par William Friedkin, à qui on doit French Connection,
oui.
Sorti en 71, ou encore le magnifique et non pas moins dérangeant Killer Joe, sorti en 2011,
oui.
Qui est une vraie réussite. Alors, ce que beaucoup de gens ignorent à propos de L'Exorciste, c'est qu'à la base, en fait, il s'agit de l'adaptation d'un roman, le roman éponyme de William Peter Blatty, mais qui sera également scénariste pour le film, et qui nous narre l'exorcisme d'un jeune garçon du nom de Robbie Mannheim. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu ou su trouver l'occasion de voir ce film, ou même trouver le courage de le regarder, eh ben, je me permets de vous faire un petit résumé de ma composition. Par contre, je vous demanderai d'être indulgent parce que faire un résumé de ce film, c'est extrêmement difficile. Alors, le film s'ouvre sur des fouilles archéologiques en Irak en présence du père Merin, qui est interprété par Max von Sydow, qui fait des fouilles archéologiques en Irak, hein, peut pas faire plus simple, et qui découvre la statuette du démon Pazuzu, une découverte qui semble le troubler puisque des visions terrifiantes apparaissent alors aux yeux du père et aux yeux du spectateur. Pendant ce temps-là, à Washington, plus précisément dans la demeure de l'actrice Chris McNeil, interprétée par la sublime Ellen Burstyn, celle-ci se retrouve confrontée à des phénomènes paranormaux. Tout d'abord, des bruits de grattement dans le grenier, puis ensuite sa fille, Regan, interprétée par Linda Blair, qui se trouve alors prise par des spasmes de plus en plus violents et développe au fur et à mesure un comportement des plus infâmes. Suite à de nombreux examens médicaux complètement infructueux, elle décide de faire appel au père Karras, interprété par Jason Miller, ce qui est son premier rôle au cinéma, c'est un acteur de théâtre à la base, et afin que celui réalise un exorcisme sur la jeune Regan. Et franchement, je préfère ne pas vous en dire plus, parce que je vais éviter de vous spoiler le film, et aussi parce que je vous ai dit déjà que c'était super difficile de faire un résumé concret et concis de ce film. Alors, moi, si je vous parle de ce film, c'est tout d'abord parce qu'en fait, c'est mon premier film d'horreur. Je l'ai vu quand j'avais 13 ans. Et à l'époque, je me souviens des nuits d'angoisse que je me suis tapé après l'avoir visionné. Hein, une semaine complète sans quasi dormir. Et aujourd'hui, c'est plus la peur qui m'habite quand je vois ce film. Non, c'est plutôt la fascination. Alors, il faut que vous sachiez qu'avant d'écrire ce papier, en fait, je me suis concentré sur les expériences personnelles de certains membres de ma famille et aussi de mes amis face à leur réaction face au film. Alors, l'une des phrases qui m'a vraiment le plus interpellé concernant le ressenti de ces spectateurs face au film, c'est une rencontre avec le mal. Et en effet, c'est bien là toute l'histoire de ce film, la rencontre avec le mal. Cette fameuse distinction s'applique également aux spectateurs qui ont fait face au film lors de sa sortie. Celui-ci a déchaîné les foules, allant de la révolte pour certains, à la fascination pour d'autres, jusqu'à l'évanouissement pour certaines âmes sensibles qui ont vu le film dans les salles obscures. Et c'est le traitement du mal et la vision qu'en offre le réalisateur qui peut nous fasciner autant qu'elle peut nous déranger. Ce qui est fou avec ce film, c'est le soin de la réalisation parce que rien n'est laissé au hasard. C'est un film qui parle de symboles religieux et qui traite ces mêmes symboles tout au long du film dans un rythme très très lent, dans un rythme lent et aussi contemplatif. Et c'est principalement l'une des marques de fabrique de ce film, des symboles magnifiquement mis en scène et qui évoquent également la présence du diable qui se tapit dans l'ombre. Chaque élément de décor, chaque accessoire, chaque réplique des personnages a son importance. Qu'est-ce que renferme une pendule qui, dans le plan suivant, se fige alors qu'elle est en excellent état ? Qu'est-ce qui se cache derrière la croix de Jésus-Christ qui semble apparaître mystérieusement sous l'oreiller de Regan ? Et qu'est-ce que la lumière nous empêche de voir ? Et la réponse, ici, elle est toute simple. C'est le mal. Un mal qui se cache, qui va s'accentuer, se montrer au fur et à mesure du film. Et c'est à cet instant que ça va très vite. Dès que le personnage de Regan est confronté au démon Pazuzu, le rythme du film semble s'accélérer soudainement. Alors que pourtant, le rythme en lui-même du montage et de la réalisation reste dans la contemplation de ce mal qui surgit petit à petit. Alors on nous laisse le temps de voir les choses, d'analyser les scènes, et les épisodes de la possession de Regan apparaissent progressivement. Au début, ça commence avec des absences, après des images subliminales, ensuite la voix du personnage qui devient rauque et grave, des insultes, le déchirement du corps avec l'apparition de plaies, et au final, ce n'est pas tant le fait que ce soit horrible puis dérangeant, c'est la violence avec laquelle ces symptômes apparaissent. On se confronte alors à une graduation de la violence, et le réalisateur impose toujours ce rythme si lent et contemplatif dans ses plans et dans le montage. Ce film nous propose une ascension vers l'horreur et le fantastique. À chaque fois que nous sortons de cette sensation de malaise, grâce aux scènes qui font avancer l'intrigue, parce que oui, faut pas croire, c'est pas juste une histoire de possession, il y a une intrigue qui se concentre sur trois personnages précis. Dans le cas de ce film, c'est le père Karras, interprété par Jason Miller, comme j'ai dit plus tôt, le père Merrin, et le personnage de Regan. Ces trois personnages ont un lien, c'est celui de la foi, du désespoir, mais également de la rencontre entre le père Merrin et le diable, puisqu'il faut savoir que le film a eu différentes suites, dont un préquel qui est sorti en deux versions, et je vous conseille la version de Paul Schaeffer qui rattrape...
C'est lequel? C'est le 3 ou le 4?
Le préquel, au commencement, c'est le 4e.
Ah oui, ouais, ouais, ouais.
Et en fait, il y a eu deux versions, mais moi je retiens vraiment celle de Paul Schaeffer qui est vraiment... qui colle vraiment plus à et l'univers.
Le 3 avait été réalisé par l'auteur du roman même.
Oui, par l'auteur du roman même, qui est plus un film d'enquête policière, horreur fantastique, qui est pas mauvais, mais qui est pas non plus, enfin, qui est un peu tiré, l'histoire est un peu tirée par les cheveux. Pour revenir à ce que je disais, le démon Pazuzu intervient et nous replonge alors à chaque fois dans l'angoisse, à chaque fois que nous pensons que nous sortons du pire, ça revient. Et ensuite, des tonnes de questions nous submergent. Alors, quand est-ce que ça va finir? Jusqu'où ça va aller? Et quel sera le dénouement, ou plutôt le point final de cette histoire? Et c'est là que l'exorciste nous prend aux tripes. Nous sommes des humains impuissants confrontés au mal. Confrontés au mal qui surgit dans le film. Les effets spéciaux ne sont pas de simples effets numériques que l'on rajoute, comme dans certains films du soi-disant même genre, tels que, pour ne citer que lui, Paranormal Activity. Mais il s'agit ici de mannequins, de maquillage et de plans parfaitement filmés qui nous permettent de nous horrifier. À tel point que l'on se demande si ce genre de phénomène existe vraiment et s'ils peuvent nous arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un avant et un après Exorciste. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier qu'avant l'Exorciste, nous avons eu le droit à des films magnifiques tels que Rosemary Baby de Roman Polanski, qui tire plus du côté du fantastique que de l'horreur, ou encore La Malédiction de Richard Donner, qui a eu le droit à un remake par John Moore en 2006, remake qui est pas tip top, mais bon, ça c'est que mon avis. Mais qu'en est-il de nos jours? Eh bien, aujourd'hui, nous retrouvons de nombreux films d'horreur qui traitent de possession. Et la plupart du temps, ils sont filmés en mode caméra amateur ou encore en found footage. Mais le problème, c'est que nous avons des suites de films incalculables, au scénario complètement stérile, tel que Paranormal Activity, comme je le disais tout à l'heure. Et au final, je n'ai jamais retrouvé cette sensation d'horreur, d'angoisse et d'épouvante qui a su me procurer l'exorciste. Et sachant que pour conclure, je vous dirai ceci, chers auditeurs. Cette histoire est tirée de faits réels. Sur ce, je vous laisse sur la magnifique musique de Mike Oldfield, Tubular Bells, thème principal de L'Exorciste.
Et je dirais même, on vous laisse tous ensemble.
On vous laisse tous ensemble.
Sur ce magnifique thème de L'Exorciste. Si il veut bien démarrer.
Sinon, on le fait nous-mêmes. Vas-y, commence.